Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode donc des Destins Flottants. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'interviewer Élodie Laurendi, qui est une nageuse donc handisport française, une championne détentrice de 2 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Elle pratique également donc l'aviron handisport. Et alors qu'elle est née donc avec une maladie orpheline qui paralyse un nerf de sa jambe gauche, du genou à la cheville, elle fait ses classes chez les valides jusqu'en National 2, jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la contrainte physique. Donc, Élodie, je suis ravie de te recevoir, comment ça va ?
Bah, bonjour à tous et à toutes, ça va super bien.
Voilà, donc on va commencer par parler de ton enfance. Mais déjà, j'aimerais qu'on parle de ton handicap. Donc, qu'est-ce que c'est exactement et quels en sont les symptômes ?
Alors, mon handicap est survenu à la naissance, donc c'est une maladie orpheline. Ils se sont pas rendus compte tout de suite que j'avais un petit souci. C'est quand j'ai voulu en fait commencer à marcher, à me lever, qu'ils se sont rendus compte que voilà, la jambe ne fonctionnait pas correctement. Donc en fait, c'est une paralysie au niveau du genou jusqu'au pied. Ils appellent ça un stépage. En fait, c'est le nerf à l'intérieur de la jambe, le nerf moteur, qui n'a pas poussé. Ce qui du coup empêche mon pied de fonctionner tout seul, donc c'est le genou et la cuisse qui fait un petit peu le mouvement pour que je puisse poser mon pied par terre, voilà, donc je peux pas dérouler ma cheville comme je déroule ma cheville avec ma jambe droite, voilà, en fait c'est une atrophie au niveau du muscle aussi, mon mollet est beaucoup plus petit que celui de la jambe droite. Donc voilà, ça c'est au niveau visuel. Après c'est vrai que physiquement on a un petit décalage en général sur ces genres de handicap, c'est un petit décalage au niveau du bassin, voilà, donc il faut que je compense un petit peu et souvent marcher avec une attelle qui nous permet, un releveur qui nous permet justement de dérouler le pied un peu mieux, sinon on se casse la figure.
D'accord, on comprend mieux. Et alors, comment ça a commencé donc la natation?
Ben en fait, j'ai commencé à subir mes premières opérations. Je devais avoir 2 ans, 2 ans et demi. Et un jour, le professeur qui venait de m'opérer me dit, Élodie, il dit à mes parents, il faudrait qu'on la mette dans l'eau parce que y a que comme ça qu'elle se sentira bien, parce que j'avais beaucoup de douleurs et c'était assez compliqué. Et en fait, j'avais un plâtre qui me permettait d'aller dans l'eau et ils m'ont littéralement jeté dans l'eau pour qu'en fait je me sente bien. Et comme j'aimais ça, ça m'a permis en fait de jamais sortir du bassin et j'ai voulu en faire mon sport quotidien. Et voilà, dès que je pouvais sortir de l'hôpital, j'allais à la piscine pour faire les écoles de natation, pour pouvoir m'entraîner aussi. À partir de 5 ans, j'ai commencé à avoir mes premières médailles avec les valides. Donc voilà, en fait, je suis jamais sortie de l'eau et à la base, c'était juste de la rééducation. Et la rééducation, c'est terminé que c'est devenu ma passion.
Ah oui, donc en fait, c'est parti de... Le chemin de guérison s'est transformé en passion directement. Ah oui, c'est assez incroyable comme histoire. Et alors, justement, comme tu as commencé avec les valides, est-ce que il n'y avait pas des moqueries ou est-ce que tout de suite, il n'y a pas eu des difficultés ou non, ça s'est bien passé?
Au tout début, je pense que... l'insouciance un peu de l'enfant qui arrive dans un bassin avec les autres, voilà, je prêtais pas trop attention, je nageais, ça me plaisait, j'étais en école de natation, à ce que dit ma maman, c'est vrai qu'on se moquait un petit peu, mais moi j'y prêtais pas spécialement attention. Quand j'ai commencé à grandir et à rester dans le club et puis justement dans ce dans ce cercle un peu de valide, on va dire. Et j'ai commencé à progresser. Et là, on a commencé un peu plus à se moquer. Et vu que j'avais plus la conscience de tout ça, je me suis rendu compte que oui, on se moquait, que c'était pas super cool, quoi. En fait, je nageais au même niveau qu'eux. Je m'entraînais pareil qu'eux. Comme je dis, je mangeais la même sauce qu'eux. Et souvent, j'arrivais à me battre contre eux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à un peu à les dépasser, on va dire, je pense que ça en a dérangé certaines. Et du coup, c'est vrai que là, les moqueries sont arrivées un petit peu plus. Je pense que le fait de la réussite, ça les a gênées. J'ai déjà entendu, je me suis fait battre par une handicapée. Enfin, voilà quoi. Alors que moi, personnellement, j'avais jamais entendu ce mot-là, hein, parce que c'est vrai que je subissais des opérations pratiquement tous les ans, mais j'avais pas ce mot dans la tête de handicap. Je suis handicapée. Voilà, moi je m'entraînais, je voulais nager, je voulais faire des compétitions, je voulais gagner. J'avais pas trop ce truc-là. Et pourtant, quand j'allais m'entraîner, je portais toujours un jogging parce que je voulais pas me montrer en short. Du fait que j'avais ma jambe et mon pied qui était pas, parce que mon pied était un petit peu abîmé. Et c'est vrai que du coup, je le mettais toujours ce jogging et je l'enlevais au dernier moment, en fait, pour pouvoir plonger et voilà, et après être comme les autres, on va dire, dans l'eau. Parce qu'au final, c'est à ce moment-là où je réglais mes comptes, mais sans le savoir. Voilà, donc un peu l'inconscience de ça, quoi.
D'accord. Et alors, justement, au niveau des opérations, parce que tu dis que tu en avais tous les ans, comment tu faisais pour récupérer? Enfin, parce qu'une opération, j'imagine que c'est lourd quand même. Alors, est-ce qu'il y avait un temps où, du coup, tu étais immobilisé? Comment ça se passait?
Oui, alors ça dépendait des opérations. Il y en avait certaines où j'avais le droit de bouger. Il y en avait qui étaient beaucoup plus douloureuses et qui étaient beaucoup plus longues. Je crois qu'il y en a une, j'ai dû passer 13 heures sur la table d'opération. D'ailleurs, je m'en rappellerai parce que je me suis réveillée à ce moment-là et je voyais des infirmières et des infirmiers voler autour de moi. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle me dit « Oh, je pense que tu as dû te réveiller au moment où il fallait pas. » Donc, non, en fait, c'était assez… Il y a des moments où c'était assez dur et du coup, il fallait que, oui, j'ai cette pause que finalement les autres n'avaient pas. Donc, je pouvais pas m'entraîner comme je voulais. Je faisais les va-et-vient en plus à Montpellier en sachant que j'habite sur Cannes. Donc, avec mes parents, on faisait les va-et-vient. Et puis dès que je pouvais en fait aller dans l'eau, je le faisais. Après, il y avait des moments où je passais quand même un mois entier, voire deux mois à l'hôpital. On essayait de faire autre chose, mais c'était compliqué parce que en plus, voilà, à ce moment-là, j'adorais l'eau. Je dis pas que je l'aime plus, hein, mais c'était différent. Plus on passe d'heures dans l'eau, plus ça prend de temps. Mais là, non, c'était vraiment. Voilà, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des moments où je pouvais pas être dans l'eau comme je voulais, quoi.
Et justement, est-ce que là, t'as pas eu la peur de perdre en niveau, de perdre en entraînement? Ou tu pensais même pas? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là?
Non, à ce moment-là, je pensais même pas et je pense que j'avais vraiment cette insouciance d'enfant où je me dis, de toute façon, je suis obligée d'y passer. Donc, c'est pour mon bien. Et je pensais juste à aller dans l'eau pour mon bien-être et pas me dire les autres elles prennent du temps sur ça et elles vont être plus fortes que moi. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui me transcendait aussi quand je revenais, c'est le fait de me dire moi j'ai pas nagé mais je suis là et il y avait des petites compétitions qui se passaient et ça se passait plutôt bien, donc je pense que j'avais un petit peu de talent aussi peut-être.
Oui, c'est ça, en fait c'est quand on fait les choses avec passion et non pas par comparaison avec les autres qu'on devient champion. Je pense dans le monde du sport ils le disent tous, enfin beaucoup en tout cas, que non, si on passe son temps à se comparer, en fait on sera jamais champion. Il faut se sentir dans son élément, tout simplement. Super. Et alors, t'as pas eu peur, parce que donc là, je suppose que c'est les années où t'as commencé à gagner en niveau. Est-ce que t'as eu peur que le sport aggrave ton handicap ou c'était pas forcément déconseillé par les médecins? Comment ça s'est passé?
Non, pas du tout. En fait, c'était plutôt conseillé par les médecins d'être dans l'eau parce que ça me permettait vraiment d'être apaisée parce qu'il y a des douleurs qui étaient tellement fortes. Que souvent le fait d'être dans l'eau c'était un moyen de me détendre. Et puis après certaines opérations, la rééducation, il valait mieux qu'elle se fasse dans l'eau qu'à l'extérieur, même si j'avais beaucoup, beaucoup d'examens à l'extérieur. D'ailleurs, j'étais traumatisée par un examen qu'il fallait passer. Et celui-là, je pense que même ma mère, elle pourrait le raconter toute sa vie. Il fallait marcher sur une ligne droite. J'étais en culotte. Il fallait que j'aie des trucs sur la tête. J'avais des petites électrodes partout sur la tête avec un casque. Et il fallait que je marche sur cette ligne droite. Et en fait, ma mère, elle dormait avec mon père sur le parking de l'hôpital, dans le camping-car. Et du coup, c'est le médecin qui allait chercher ma mère pour que je puisse faire l'examen, parce que je voulais pas le faire, parce que c'était traumatisant, en fait. Rien que de marcher sur cette ligne droite. Et en plus, je savais que je marchais pas droit, donc c'était hyper compliqué. Et je pense que c'est le seul truc qui m'a traumatisée. Après, sinon, vraiment, dans l'eau, on me déconseillait pas. Au contraire, c'était vraiment, en plus, l'élément où on s'en sent quand même en apesanteur, où je me sentais bien, j'étais libre un peu de mes mouvements. Et en plus de ça, j'avais pas le handicap qui fait que à l'extérieur, j'étais gênée. Comme je suis gênée pour la marche, une fois que je suis dans l'eau, je suis beaucoup moins gênée, j'ai beaucoup moins de douleurs. Et pour le dos, c'est génial, quoi.
Super. Et est-ce que tu avais des antidouleurs peut-être qui te fatiguaient, ou non, justement, c'était le fait d'être dans l'eau qui t'aidait à avoir moins mal ensuite, par la suite? Parce que quand tu dormais, par exemple, est-ce que tu avais des douleurs qui te réveillaient, ou comment ça se passait?
Ça, je me rappelle plus trop, mais je sais que oui, j'avais quand même des médicaments assez forts, donc c'est vrai que je pense que ça a aidé aussi pour pas avoir cette douleur. Après, je sais que à l'époque, on essayait souvent de laisser faire les choses et de pas trop doser au niveau des médicaments, en sachant que à chaque fois que je faisais une opération, c'était une anesthésie générale, donc ce qui était déjà très rude pour le corps, donc il fallait minimiser la chose. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais hospitalisée pendant quelques mois, c'était des médicaments assez bas. Après, quand vraiment la douleur était là, on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai que l'eau, sur ça, l'élément, fait que je me sentais tellement bien. Je voulais y retourner tous les jours, je m'en rappellerai, j'ai une image dans ma tête. Il fallait passer d'un brancard à un autre, parce qu'en fait, il fallait se laver pour pouvoir rentrer dans le bassin. Et le professeur venait toujours me voir, il me dit « Alors, c'est ton moment, à toi ?» Puis je me rappellerai toujours, parce que en plus, j'ai grandi, je suis restée là-bas longtemps, à Palavas, avant d'être transférée sur Nice. Donc, j'ai quand même des souvenirs, même si j'ai commencé bébé à être là-bas. Après, j'ai des souvenirs quand j'avais 8-9 ans. Et c'est vrai que c'est des trucs qui restent. Alors, souvent, on me dit « C'est un traumatisme ?» Oui et non. Oui, parce que il y a eu des opérations, il y a eu plein de choses qui sont passées. Et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une force, et c'est quelque chose qui m'aide à vivre tous les jours. Quand je me sens pas bien, c'est vrai que quand je suis dans l'eau, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que quand les médecins nous disent, les kinés souvent disent, ah, il faudrait que tu ailles nager pour ton dos, c'est bien. Et c'est vrai, les gens se posent la question, et des fois, j'en entends, on me demande, on me dit, Élodie, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai, quoi. C'est vrai parce que ça, on est en apesanteur, on se sent bien, on n'a pas de douleur dans l'eau. C'est magique.
Et c'est de là où on vient d'ailleurs, en fait. L'eau, nos ancêtres viennent de là. Avant nous, c'était que des animaux marins. Donc c'est comme retrouver une essence. Moi, je trouve que la symbolique de l'eau, elle est tellement apaisante parce que c'est un réalignement, en fait, un réalignement de la source de la terre. Et dans la terre, il y a l'eau, donc qui nous porte. Super. Donc en fait, toi, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est justement l'eau qui t'a permis de surpasser toutes les croyances qu'il pouvait y avoir autour de ton handicap. Et est-ce que qu'est-ce qui t'a vraiment... Ah oui, alors il y a le passage avec à 17 ans, tu te rends compte que finalement tu préfères donc nager dans le handisport. Alors comment ça s'est passé? Donc à 17 ans, il y a eu un moment de bascule.
À 16 ans, en fait, il y a eu un moment de bascule parce que, en fait, j'ai nagé jusqu'à l'âge de mes 12 ans avec les valides dans un club. Après, j'ai changé de club. J'ai voulu continuer mes études dans un autre club, c'était à Nice. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu, enfin, en fait, plus je grandissais, plus c'était dur de tenir les valides sur des départs, sur des virages, en sachant qu'il me prenait 5-10 mètres. Et donc, sur une course, c'est énorme. Donc en fait, j'en avais un petit peu marre et j'étais un peu saturée de voir que, en fait, je nage bien, mais que je me fais distancer sur quelque chose de bête au final, et du coup j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai voulu arrêter juste après. Donc j'avais 16 ans quand j'ai voulu quitter le club à Nice, et c'est un autre club à Nice qui m'a ouvert les portes en me disant, écoute, tu sais, il n'existe pas que de la natation course, il existe aussi de la natation en eau libre. Et l'eau libre, en fait, fait que, ben, voilà, ça a bien son mot, hein. T'es libre de faire ce que tu veux, t'es libre de partir comme tu veux, t'es libre de t'arrêter au moment où tu veux. Il faut juste pouvoir finir la course. Alors c'est des longues distances, donc c'est plus du tout la même distance qu'en bassin. C'est du 5 km, c'est du 10 km. Et en fait, mon entraîneur du moment, Michel Pou, me dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui est amputé d'un bras. Au niveau du coude, et elle s'appelle Émilie Graal, et en fait elle était déjà en équipe de France paralympique. Et puis elle me dit, écoute, elle m'a dit que c'est vrai que il y a aussi de l'eau libre en handisport, et aussi il y a des personnes qui pourraient voir si tu as un handicap. Enfin, il me l'a un petit peu amené comme ça, quoi. Il a un petit peu tourné autour du pot. Et puis je lui dis, mais comment ça, handicap, pourquoi elle est amputée, qu'est-ce qui se passe, enfin. Alors il essaye de m'expliquer, parce que moi du coup j'avais pas du tout ce truc en tête. Et il me dit, bah si, Elodie, en fait, je pense que tu peux réellement nager en handisport, parce que ton handicap fait que. Et en fait, ce mot handicap, je l'avais pas entendu depuis, bah justement, ces moments passés dans mon premier club où on me disait, elle est handicapée, elle est handicapée. Moi je l'avais pas spécialement entendu, je l'avais pas spécialement vu. Je voyais des gens en fauteuil, bien sûr, mais je pensais pas que le handicap pouvait être invisible. Parce que c'est vrai que quand on n'y prête pas attention, le handicap peut être invisible. Et là, je me rappellerai, donc j'ai une course à Mimizan, c'était un 5 km, et il y avait un DTN qui était kiné, à la base, qui s'occupait du handisport, et qui s'était arrangé avec Michel pour que, justement, moi je fasse le 5 km, et qu'il puisse me rencontrer, en fait, et voir vraiment ce que j'ai, mon handicap, etc. Donc je fais le 5 km, moi insouciante, j'arrive, je fais le 5 km, en plus je fais un super temps, je sors, et puis Michel me dit, ah ben c'est bien, tu t'es qualifié pour les championnats du monde. Donc moi je le regarde, je lui dis, comment ça les championnats du monde, avec les valides? Il me dit, non, en handisport. Ah, j'ai dit, mais tu, désolé du mot, mais j'ai dit, mais tu m'emmerdes avec ce mot, franchement, pourquoi handisport? Je suis pas handicapée, laisse-moi tranquille. Voilà, donc j'étais un peu frustrée parce que j'entendais trop ce mot trop souvent. Là, il y a ce monsieur, donc Jean-Michel, qui vient me voir et qui me dit, écoute, bonjour, je suis DTN du handisport, et je suis à la base kiné, et je voudrais regarder ton pied. Donc je me vois lever mon jean, le gars qui commence à regarder ma jambe, et puis il me dit, écoute, je pense que tu devrais faire des tests avec nous, parce que tu as un handicap qui fait que tu peux rentrer en handisport. Bon, en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, bon, je les écoute pas parce que je sais pas ce qu'ils me racontent. Et puis, en fait, je suis partie de la compète sans me dire, ces gens-là, je vais les revoir. Parce que je me dis, voilà, on me parle de handicap, j'en ai marre, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi on me met dans une case. Parce que, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on nous met dans une case. Et les jours passent. Et en fait, Michel, justement, m'a dit, écoute, tu as fait des temps pour les championnats du monde en handisport. Il faudrait que tu fasses une compétition en handisport. D'où les championnats de France qui arrivent dans peu de temps. Il faudrait que tu fasses ces championnats de France pour voir si tu peux te qualifier sur de l'international pour pouvoir passer en classification internationale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en natation paralympique, enfin même dans les autres sports, il faut passer devant des médecins internationaux et des kinés internationaux avec un dossier médical en français et en anglais de tout ce qu'on a subi comme opération. Donc pour moi, vu que c'est pas un accident, c'est toutes les opérations depuis que je suis petite, qu'est-ce que j'ai eu, etc. Bien détaillé, et pour que je puisse justement intégrer le handisport dans ma catégorie, parce qu'il y a plusieurs classes, et donc S10, c'est ma catégorie à moi. S pour swimming, donc pour la natation. 10, c'était le moins gros handicap. Et après, ça descend jusqu'à 1. Voilà. Donc, il fallait que je voie les kinés internationaux. Et donc, je fais les championnats de France. J'arrive et je vois tous ces gens handicapés. Au final, c'est ça. Alors oui, on dit en situation de handicap, mais Moi, je vois tous ces handicapés. Mes parents, surtout quand je leur ai dit, bon, bah, je vais nager en handisport, ma mère, elle m'a dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu veux nager
C'était
en
dur à
handisport?
accepter, ouais, peut-être.
Surtout qu'on l'avait jamais entendu réellement, quoi. On n'en a jamais parlé. Mes parents ont toujours galéré pour plein de trucs. Et au final, on n'a même pas su que j'aurais pu aider depuis que j'étais toute petite. On n'en avait jamais parlé. Et c'est vrai que du coup, là, à ce moment-là, ma mère, elle dit, non, mais n'importe quoi, on va pas aller là-bas et tout. Finalement, on y est allé. On est arrivé, on a vu tous ces gens amputés, des grands brûlés. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. Et là, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment handicapée? Parce que, enfin, moi, quand je vois tous ces gens en situation de handicap, je pense pas avoir finalement, cette chance de pouvoir nager.
Degré.
Ouais. Et puis une chance de pouvoir finalement faire du sport comme ça, quoi. Et en fait, tout s'est enchaîné. Au championnat de France, j'ai battu le record de France qui avait 14 ans, qui n'avait pas été battu au 400 mètres libre. En plus, j'enchaînais sur une compétition valide derrière, donc il fallait que je prenne le train le soir. Enfin, voilà, c'était un petit peu la folie. Et 3 semaines après, je partais sur Sheffield avec le DTN, le fameux DTN que j'avais rencontré. Et il fallait qu'il me présente donc aux médecins internationaux et aux kinés pour que je puisse passer une classification. J'avais monté mon dossier vraiment à la va-vite, mais on avait tout récupéré, tout ce qu'il fallait. Donc j'arrive dans ce milieu-là, je vois tout ça autour de moi, c'est grandiose. J'avais un t-shirt France qu'on m'avait offert, qui était hyper grand. Je nageais dedans, mais j'étais trop contente de l'avoir. Et puis au final, je passe cette classe 6 et on me dit ben voilà, en fait, tu es S10. SM10 et SB9. Donc S10 donc pour swimming et ma catégorie, SM c'est pour le medley, c'est pour le catnage, et le pour le SB c'est pour la brasse. Et en fait, je me dis bon bah voilà, en fait, je suis rentrée dans le milieu, quoi. Ça y est. Et là, on me dit bon ben maintenant que tu es passé à ça, que tu as pu faire ta classification, tu vas partir au championnat du monde. Et je pense que tu vas refaire même une compétition pour que tu puisses te qualifier sur les championnats du monde, mais en bassin, pas que en eau libre. Et en fait, tout s'est enchaîné. Voilà, j'ai été championne du monde, j'ai été vice-championne du monde d'un coup. Enfin, ça a été l'année qui suivait, et tout s'est enchaîné. En fait, je me suis rendu compte que les filles dans ma catégorie, on avait pratiquement, bon, peut-être pas toutes le même handicap, mais on avait quand même c'était similaire. On se ressemblait beaucoup, en fait. Et du coup, c'est là à ce moment-là que tout le début de ma vie, on va dire, a défilé. Tout ce que j'ai pu entendre, les moqueries de ça, je me suis dit, ah ouais, mais maintenant, en fait, ma revanche, elle était déjà dans l'eau. Mais là, elle est encore plus belle parce que, en fait, je vais leur montrer que bah, j'ai ma place dans un autre milieu, mais qui finalement est le même, puisque, comme on dit, on mange la même sauce que les autres. Les entraînements, ils se passent pareil. Donc, en fait, voilà, ça y est, je suis partie, quoi. Et puis, ça s'est enchaîné.
Ouais, c'est ça en fait, c'est d'arriver à rester voilà soi-même, même dans un milieu qui nous met dans des cases. Alors je suppose que voilà, tu racontes le fait que ça a été difficile pour toi au début d'accepter cette catégorie handicap, mais ça n'empêche pas le fait que t'es pas obligé de t'identifier à ça. Que finalement le même si voilà, en plus je suppose qu'il y a des catégories d'handicap, non?
Oui, c'est ça, ouais. C'est voilà. Par exemple, moi je suis S10, c'est moins grand handicap. S9 en général, ils ont un bras qui est touché ou amputé au niveau du coude. Après S8, ils sont amputés d'une jambe ou d'un bras. Enfin, ça descend en fait.
Oui, voilà, c'est ce que voilà. Tu disais tout à l'heure.
Ouais.
Oui, donc dans ces catégories-là, je suppose que ça, enfin, en plus, doit y avoir pas des rivalités, mais ça doit pas être facile déjà quand on a un handicap et qu'on te dit bon bah toi t'es S1 ou S2, enfin je pense que voilà, c'est pas facile de pas s'identifier à ces catégories là et tout le travail qui doit être fait, c'est de se focaliser sur sa passion, je pense. Et alors toi, du coup, est-ce que t'as eu ce moment un peu difficile où tu t'es dit ok, on me met dans des cases mais je reste intègre, je ne m'identifie pas à ça. Est-ce que ça t'a coûté beaucoup d'efforts mentaux, physiques? Comment ça s'est passé?
Ah oui, j'ai mis du temps quand même, parce que c'est vrai que, comme on dit, c'est vrai qu'on s'identifie à quelque chose. On reste sur ce... J'ai un chiffre. Tu es un chiffre, en fait. Tu nages, tu es S10. Et c'est vrai que... Moi, souvent, quand on me posait la question, je dis oui, je nage contre des filles qui ont le même handicap que moi. Mais en fait, on fait de la natation, quoi. Je vois pas où est la différence. À part qu'il y a certaines nages, oui, où on voit le handicap un peu plus, comme pour la brasse, où on a les jambes qui sont décalées, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à me défaire de ça et en compétition valide, c'était « Ah, c'est la jeune fille qui fait du handisport. » Enfin, non, en fait, c'est la jeune fille qui fait de la natation. Et elle fait de la natation comme toi. Et ça, c'est vrai que ça l'est encore aujourd'hui, hein. Ça l'est encore aujourd'hui. Et il y a souvent ce... Alors moi, je l'ai beaucoup moins sur les compétitions valides. Quand j'arrive, moi, je suis comme eux, quoi. Oui, je suis en disport, mais je vois pas la différence, quoi. Je m'entraîne avec eux, je me pose, je suis bonjour, je suis Élodie Laurendi, je vais faire un 100 mètres nage libre avec tout le monde. Je vais pas faire un 100 mètres nage libre dans ma catégorie. Et ça a mis du temps un petit peu. Ça a mis du temps à se construire. Ça a mis du temps à se construire parce que voilà, on nous met dans des cases et il faut suivre ça et moi je suis pas d'accord donc du coup je me suis confrontée à pas mal de gens pour ça et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que on est encore là-dedans. On est encore sur ce oui, toi t'es en handisport, tu nages avec les valides. Non. Je fais de la natation et je fais des compétitions valides.
Donc ça, c'est un moteur en fait pour toi, de cette détermination d'avoir été, d'être championne. Ça venait de là ou il y a d'autres facteurs ?
Non, je pense que vraiment c'est cette force aussi qui fait que je suis allée au-delà de ça, quoi. Je sais que c'est pas facile pour toutes, pour tous. Je sais que il y a beaucoup de blocages, même moi je vois sur les jeunes, etc. Et en fait, moi c'était ma force. Ça a été ma force, je me suis construite un mental d'acier grâce à ça aussi. C'est vrai que aujourd'hui, quand j'arrive la tête haute au bord d'un bassin, je veux dire, au début c'est compliqué de le faire parce que il y a cette image, etc. Mais moi, je sais que le moteur aujourd'hui de ça, c'est le fait que j'ai vécu tout ça. Je suis en handisport, mais je suis une nageuse. Et ça m'empêche pas de vivre comme tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu différentes et encore moi j'ai un handicap qui est minime, mais c'est vrai que voilà, moi je me construis à travers cette force, quoi.
Et est-ce qu'il y a eu, je suppose que on gagne pas tout le temps quand on nage à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu des échecs ? En fait, bon, pour moi il y a pas vraiment de réussite d'échec. Il y a plus vraiment des expériences qui nous apprennent et qui sont désagréables ou agréables. Alors, est-ce que, voilà, ces échecs que tu as pu ressentir, est-ce que parfois, ils ont pu ébranler, justement, ta détermination ? Comment tu as réussi à tout de suite reprendre pied et montrer de la résilience ?
Ben, en fait, c'est vrai que il y a pas mal de passages d'aventures, en fait, pour si on veut pas dire échec, il y a pas mal d'aventures négatifs qui se mettent sur le chemin et je pense que pour un sportif de haut niveau c'est pour moi c'est obligatoire. C'est se construire dans la oui, on peut l'appeler la défaite. Ça m'est arrivé d'avoir une défaite et se construire là-dedans fait que en fait c'est formateur et ça nous aide justement à se construire pour la victoire. Et aujourd'hui, je pense que toutes les échecs sont des victoires. Parce que au final, on se rend compte que ça nous aide dans tout. C'est vrai que c'est hyper compliqué à le comprendre quand on est jeune, parce que à 15-16 ans, à 17 ans, on a la folie des compétitions, on a envie, on est dans ce truc-là. J'ai toujours envie de réussir. Mais en fait, vouloir toujours réussir, à un moment donné, il faut passer par ce trou en fait où on met le pied dedans. Et si on l'a pas, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça nous rattrape parce que c'est, pour moi, c'est une victoire, elle est construite avec des échecs et c'est hyper formateur, quoi. C'est hyper formateur, donc c'est vrai qu'on peut dire échec sans le dire parce que c'est plus une formation sur notre passage qui fait qu'on arrive à cette victoire aujourd'hui et en fait finalement moi au jour d'aujourd'hui j'ai plus d'échecs, je fais plus des genre, même si je vais louper une compétition, ça sera pas un échec parce que déjà j'ai tout vu, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai envie de revoir encore beaucoup de choses et ça voilà, j'ai eu toutes ces médailles grâce à ça aussi, quoi. Et puis je pense qu'il faut se prendre des claques, hein, pour arriver à faire de belles choses, hein. que c'est hyper important.
C'est encore une fois ce côté catégorie, on se met dans des cases qui font qu'on va déterminer ça comme un échec, alors que c'est juste, comme tu dis, un apprentissage. Hein. C'est comme quand on, tout bêtement, à l'école, quand on se reçoit une mauvaise note. Bon voilà, ça en dit pas sur nous, ça en dit sur tout simplement le temps d'apprentissage. Donc sûr que c'est important de surpasser cette peur là.
Ouais, puis la société fait qu'aujourd'hui on nous dit toi t'as fait ça, là tu t'es trompé. En gros on nous catégorise. Alors qu'à ce moment là ça doit pas être. Et en fait ce qui se passe aussi souvent avec les jeunes. C'est que ils se disent en fait j'ai pas réussi donc on va me mettre là alors que j'aurais voulu être là. Mais en fait non, y a pas de on te met là tu te mets là, non, c'est chacun sa place, chacun est différent et puis on apprend tous différemment quoi. C'est le problème de notre société aujourd'hui.
Tout à fait. Alors justement tu disais que chez les jeunes tu voyais pas mal de blocages justement par rapport à leur handicap. Alors qu'est-ce que tu peux voir qui revient assez souvent?
La comparaison. C'est ils se comparent. Ils se comparent souvent. Ils sont il y en a. Enfin, je les trouve. Je sais pas si c'est la génération, mais je les trouve un peu nonchalants quoi. Dès qu'ils voient que ça fonctionne pas tout de suite, ils disent ça sera trop dur. En fait, ils baissent vite les bras alors qu'en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils sont en train de construire pour justement arriver à la réussite en fait plus tard. Alors bien sûr, hein, ils réussissent pas tous ou ils réussissent en tout cas à leur niveau à eux. Il y en a qui ont plus de talent aussi que d'autres. Il y a la morphologie aussi qui fait que peut-être que voilà c'est ça change et souvent et c'est le problème aussi un peu des parents, c'est mais je comprends pas, elle est plus forte que elle ou lui il a été plus fort que lui à ce moment-là mais pourtant à l'entraînement il va plus vite que lui. Oui, mais en fait c'est justement ce qu'il faut pas faire parce que c'est les mettre dans des cases, les enfants, leur dire aujourd'hui t'as été nul, t'es là. Non, il a pas été nul. C'est juste qu'aujourd'hui, il a été au niveau qu'il a été à ce niveau-là aujourd'hui parce qu'il n'avait pas le choix d'être à ce niveau. Et que peut-être, justement, il est sur le chemin de la formation, quoi. Il est sur le chemin de cet apprentissage qui fait que ça peut pas venir tout de suite. Après, bien sûr, hein, il réussit. Bien sûr, il y en a beaucoup qui réussissent pas. Ou en tout cas, qui réussissent à un certain niveau, mais qui sont obligés de s'arrêter parce que le niveau est très élevé, ou parce que ils sont peut-être faits pour autre chose, ou ils sont peut-être plus intellectuels, ou ils sont peut-être plus manuels, ou ils sont peut-être plus voilà. En fait, c'est dommage parce que on devrait laisser en fait les enfants se découvrir, et finalement, en les laissant se découvrir comme ça, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est dur de le laisser partir, donc on le bloque en lui disant « Ah, non, mais en fait, ça, c'est pas pour toi. Tu devrais pas faire ça. » Laisse-le aller peut-être se casser la figure et puis peut-être qu'il reviendra plus fort. Et en fait, c'est le problème de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, quand je vois, on le voit beaucoup plus au foot, hein, mes parents qui sont derrière les grilles en train de crier « Ah, mais t'es nul, pourquoi tu fais ça ?» Enfin, ça, c'est complètement nul de faire ça. C'est pas toi qui es en train de courir, c'est ton fils. Peut-être que lui, là, à ce moment-là, il était content du geste qu'il a fait. Enfin, et c'est vrai que on les bloque sur des choses. Enfin, c'est comme les jeunes filles, nous, qui viennent à la piscine, qui sont indisposées très tôt, qui savent pas comment s'y prendre, et on leur dit mais de toute façon, la natation c'est pas pour les filles, parce qu'elles peuvent pas nager parce qu'elles sont indisposées. Mais en fait, je vois pas le problème de pouvoir laisser nager une jeune fille avec tous les dispositifs qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir l'aider justement à pouvoir bien s'entraîner en étant bien dans sa peau. Et c'est vrai qu'en fait je trouve qu'on met tout le monde dans des cases et moi j'essaye de casser ce truc là parce que je vois moi avec les jeunes filles que je m'entraîne, parce que je m'entraîne avec, là aujourd'hui en natation, je m'entraîne en natation pour les Jeux de Paris 2024. Et du coup je m'entraîne avec les valides, avec des jeunes filles, et souvent la question c'est oui mais pourquoi moi j'arrive pas à faire ça. Mais en fait qui t'a demandé de le faire à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une date à aller chercher? Alors, certes, il y a des compétitions où on est obligé d'être à un certain niveau. Il y a des compétitions où on est obligé d'être là à ce moment précis. Et c'est ça qui est un peu dur en natation. Et ça fait quoi si t'es pas là à ce moment-là? Est-ce que ça va changer ta vie? Non, ça changera pas ta vie. Ça changera le fait que tu vas te casser la figure. Tu vas peut-être revenir. Ou tu vas aller direct à la réussite. Et puis, dans ton petit parcours, eh ben, tu vas avoir un peu plus de difficultés. Puis, en fait, c'est le serpent, quoi. Il faut un moment laisser faire les choses. Et c'est vrai que moi, je le vois avec les jeunes. C'est hyper compliqué parce que il y a des parents qui comprennent, il y a des parents qui comprennent pas. Il y a de la famille il y a la famille qui est proche, il y a de la famille qui est moins proche. On catégorise tout le monde, on les met dans des cases, alors que ces jeunes, faut les laisser faire, quoi. Avec des limites, mais je pense qu'il faut les laisser se découvrir, en fait. Ouais, des cadres, il faut les laisser se découvrir.
Oui, tout à fait. C'est important de pas les surprotéger et dès qu'il y a un échec, de dire, ah bah, du coup, c'est pas fait pour elle. Bah, attends, elle vient juste commencer. Peut-être que si, sais pas, laisse-la aller un peu plus loin. Alors oui, après, si ça arrive un moment où ça te fait vraiment trop souffrir et qu'au final ça rend pas heureux l'enfant, bon, oui, là, ok, ça mérite d'être mis en question, mais essayez au moins, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est
alors justement, ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis à propos du fait d'être indisposé. C'est vrai que j'y avais pas pensé, et en fait, bon, évidemment, il y a plein de moyens de pouvoir nager. Je pense notamment à la cup, qui est un bon moyen de se protéger quand on nage. Et c'est vrai qu'il y a énormément de croyances limitantes à propos des règles. Moi-même, enfin, j'ai fait 10 ans de tennis et je sais que quand j'avais mes règles, on m'en avait tellement parlé du fait d'avoir ces règles pendant le sport que j'avais commencé à avoir plein de croyances en me disant, ah bah de toute façon c'est la semaine où j'ai mes règles, je ferai un mauvais match, je ferai un mauvais entraînement. Et effectivement, je faisais des mauvais entraînements. Puis au bout d'un moment, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en fait, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'énergie pendant mes règles. Pourquoi je me servirais pas de cette énergie, en fait? Et puis j'ai commencé, en fait, à avoir mes règles complètement autrement. Et j'ai commencé à faire des matchs normalement, à avoir des entraînements normaux pendant mes règles. Et même, ça me donnait un peu plus d'énergie, un peu, parce qu'on est un peu, à vif pendant cette période. Enfin, voilà, irritable. Et du coup, ça me permettait de me défouler. Et en fait, alors oui, il y a le premier jour, effectivement, qui est un peu lourd parce qu'on a mal, etc. Mais sinon, le reste, ça allait très bien, en fait. Et pareil, le fait de mal vivre ses règles, je trouve que c'est quelque chose, pareil, qui est très conditionné. C'est possible de vivre des règles dans la douceur, dans l'accueil, dans l'acceptation.
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu peux dire, toi, à propos de ça? Alors, comment ça s'est passé pour toi?
Ben, alors moi j'ai été indisposée, j'avais 9 ans, donc c'est hyper tôt.
Très tôt.
Et donc au final, ben en fait il fallait que j'aille nager et que que je puisse être couverte correctement parce que c'était ça coulait quand même bien. Donc en fait j'ai ma maman qui m'a accompagnée en douceur. Voilà, on a essayé de passer par le tampon, ça a pas marché parce que j'étais jeune et que c'était compliqué de le mettre. Donc au tout début, en fait, j'ai essayé sans. Quand j'étais dans l'eau, ça se coupait. Donc en fait, j'étais pas du tout gênée. Et c'est en sortant où je me dépêchais un peu plus que d'habitude. Voilà. Après, quand j'ai commencé à avoir un peu plus
cette technique.
Ouais. Quand j'ai commencé à grandir et à avoir un peu plus de règles, un peu plus fructuantes, je sais plus comment on dit, un peu plus,
qui coulent. Abondante.
Ouais, abondante. du coup, j'ai réussi à avoir un tampon pour pouvoir me protéger. J'ai toujours eu mon petit spasfon, je le prenais quand même avant de nager parce que c'est vrai que ça pouvait être douloureux, etc. Donc en fait, moi, ça s'est fait hyper naturellement avec ma mère, parce que j'en ai parlé. Et parce que, dès que j'étais gênée ou dès que ça me dérangeait, en fait, je me suis jamais dit, je vais pas m'entraîner parce que j'ai mes règles. Jamais. Enfin, c'est un truc que j'en vois dans les vestiaires qui me disent, ah ouais, non, mais aujourd'hui, je suis indisposée, c'est compliqué et tout. Du coup, j'essaie d'en parler avec elle parce que je me dis, Non, tu peux pas réagir comme ça et te dire je vais pas aller nager parce que j'ai mes règles. Non, au contraire, ça va peut-être même te faire du bien d'aller nager parce que du coup ça va te libérer un petit poids. Et puis il y a d'autres façons de gérer les règles, quoi. Donc et c'est vrai qu'en fait on a tellement de, elles ont, en fait, je pense qu'elles ont tellement de peur, la peur de la tâche, la peur de que ça coule, la peur de ci, de la peur de là, que du coup elles sont frustrées et elles préfèrent se dire bon bah je veux pas l'entraînement et puis c'est pas grave quoi, ça sera un entraînement de moins. Moi personnellement ça me l'a jamais fait et franchement merci maman parce que c'est vrai que j'ai jamais été indisposée au point de ne pas aller nager. Donc du coup c'était quand même, et c'est pour ça que moi j'en parle aujourd'hui avec les jeunes filles parce que en plus maintenant il y a plein de choses, hein. Il y a les maillots de bain avec les serviettes intégrées avec des produits bio qui sont recyclés, tout ça. Donc franchement maintenant on n'est plus obligé de porter des tampons parce que c'est vrai qu'en plus c'est pas bon du tout. Ça crée beaucoup de problèmes et puis c'est pour la planète, je pense que c'est un autre moyen d'utiliser pour éviter ce genre de choses. Et c'est vrai que non, on n'en parle pas assez et franchement les pauvres, il y a des jeunes filles, des fois ça me fait de la peine, je me dis pourquoi on leur a fait croire ça quoi. Moi j'ai une anecdote, mon arrière-grand-mère qui me disait le jour où tu es indisposé, tu ne peux pas faire de mayonnaise. Mon arrière-grand-mère qui me disait ça.
Et en fait, oui, c'est connu ça. C'est
et
n'importe
alors,
quoi.
En fait, au bout de, je sais pas, peut-être un an. Et en fait, je suis sûre qu'elle me dit n'importe quoi et que je suis capable. Et la pauvre, elle est décédée. J'ai pas pu lui montrer qu'en fait c'était faux et qu'elle avait une croyance qui était plus que limitante parce que franchement non. Et que je sois indisposée ou pas, la mayonnaise, elle monte parfaitement.
Oui. Donc, laisse-moi en fait, faire ma mayonnaise, enfin.
Donc en fait, c'est vrai, on nous met des trucs en tête et on reste là-dessus pendant des années. Et en fait, au final, on se dit mais c'est nul de rester là-dedans parce qu'il y a tellement de choses à voir. On pourrait, en plus, enfin, moi j'aime bien cette phrase qui dit on commence à vivre quand on sait qu'on n'a qu'une seule vie. Et c'est vrai qu'en fait, c'est à force de bloquer sur ça. On se dit ah ouais non mais en fait je suis restée bloquée sur ça pendant un moment quoi, là maintenant il faut que j'y aille quoi parce que j'ai perdu du temps pour rien et c'est vrai que moi je le vois aujourd'hui, j'essaye d'enlever tout ça parce que bon en fait ça nous pourrit la vie quoi, c'est vrai hein.
Bien sûr. Alors après, on nie pas les maladies, tout ce qui est endométriose, etc. Et quand on a très très mal pendant nos règles, bon là, parfois c'est que ça peut être une maladie, ça on le nie pas. Mais c'est vrai que de manière générale, il y a beaucoup beaucoup de croyances autour des règles et du sport, alors que au contraire, c'est justement ça nous montre qu'on est cyclique, qu'un nouveau cycle recommence, que
c'est normal,
voilà. En plus, on est réglé. C'est normal, on est réglé avec la lune, enfin voilà, c'est ça fait partie de l'acceptation de son corps. Et aussi bon, enfin ça vient d'une croyance très très ancienne qui est chrétienne notamment, où je crois qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que quand une femme a ses règles, elle doit se cacher ou qu'elle est sale, enfin je me souviens plus du verset exactement, mais ça m'avait choquée à l'époque où j'avais lu la Bible. Et en fait, après, moi, j'ai fait pas mal de recherches sur le sang des règles, etc. Et en fait, le sang des règles peut soigner, vraiment, si vous avez une si vous êtes ouvert quelque part, vous pouvez mettre du sang de règles sur la blessure et ça soigne. Et aussi, dans les périodes où vous êtes très, très faible, bon là, désolé, moi, je suis sans tabou, mais vous pouvez aussi en boire et ça vous redonne de l'énergie.
C'est vrai, ils disent que le sang est bon.
Tout à fait. Donc voilà. Alors, justement, tu parles de ta famille, notamment, qui t'a beaucoup soutenue. Est-ce que c'était un moteur particulier dans toutes tes compétitions, en fait, le fait d'avoir ta famille présente, ça t'a vraiment aidé, boosté?
Je pense que sans ma famille, j'aurais peut-être pas été au bout. Après, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, qui est primordial. Si on n'est pas bien entouré, c'est quand même très compliqué de poursuivre dans le haut niveau parce que pareil, c'est un milieu où bah voilà, on si on fait pas ça à ce moment-là, et ben on va on va dire, bah, cette personne-là, bah, doit plus être dans une équipe de France, ou si elle fait ça, bah, oh, peut-être qu'à ce moment-là, oh, on va peut-être réfléchir, on va peut-être la sortir. En fait, c'est hyper ingrat, parce que il faut être toujours, en fait, il faut être toujours au top du top. Il faut toujours avoir cette, ce sourire devant le public, alors que non, il y a des moments où c'est hyper compliqué. Il y a des passages à vide dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Et si on est entouré, alors que ce soit de la famille pour ceux qui l'ont, que ce soit des amis, que ce soit des coachs, que ce soit voilà, de la préparation physique, de la préparation mentale, je pense qu'en fait c'est hyper important d'être entouré. Et quand on est bien entouré, en général ça se passe plutôt bien. Moi je sais que ça m'a beaucoup appris à finalement sortir un petit peu le mal que j'avais quand j'en avais besoin, parce que je suis pas obligée de le garder pour moi. Après, il y a certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à l'entendre, il y a certaines personnes qui, au contraire, étaient là à ce moment-là pour m'aider et qui avaient la force pour m'aider. En tout cas, moi, ma famille, ils ont toujours été présents, et ça, c'est quelque chose qui, enfin, je pourrais jamais dire que ma famille n'était pas là. C'est pas vrai. Ils ont toujours été là, et à chaque compétition, ils étaient là. Et ce petit regard que j'ai à chaque fois quand je monte sur le plot pour les voir, ben voilà, ça me donne cette envie d'aller encore plus vite, quoi. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment une force d'avoir de l'entourage. Voilà, pour ceux qui ont de la famille, c'est sûr que c'est vrai que quand on n'a pas le papa et la maman, des fois c'est compliqué. Et je pense qu'il faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes. En sportif de haut niveau, il est pas tout seul en général. Il a son coach, il a la psychologue, il y en a peut-être des fois qui ont des psychiatres, il y en a qui ont. C'est vrai que en fait, c'est quand même un cercle vicieux, le sport de haut niveau. Et souvent on nous dit ah bon, mais t'es entouré de psychiatres, de psychologues? Ben oui, parce que en fait il faut quoi. Parce que on a le droit de plus être fort à un certain moment. On a le droit de dire non, j'en peux plus. Et c'est vrai qu'il y a encore cette croyance de dire le sportif de haut niveau, il est fort, il y arrive tout le temps. Oh, de toute façon, il est au-dessus de tout le monde. Mais non, pas du tout. Non, un sportif de haut niveau, il vit comme tout le monde. Bien sûr, l'allure, elle est, on va dire que c'est un peu plus élevé. Donc du coup, ben voilà, il faut s'adapter à beaucoup de choses. Mais non, un sportif de haut niveau, ok, il a un caractère. Il y a certains sportifs de haut niveau qui n'ont pas un fort caractère, hein, mais qui s'en sortent très bien. Et c'est vrai que voilà, il faut arrêter de croire que on n'a pas besoin de notre entourage, ou qu'on n'est pas entouré, que on va y arriver parce qu'on est fort. Non, moi ma famille, elle est là, j'en ai toujours eu besoin, et puis c'est grâce à eux aussi que je suis encore là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, après 6 mois de la naissance de ma fille, bah, je suis dans l'eau, je replonge, c'est hyper dur. En plus, j'ai la maladie d'Hashimoto, je l'ai su il y a 3 mois. Donc c'est de la thyroïde qui est, moi je suis en hypothyroïdite, donc c'est un peu terrible, on va dire, parce que le médicament, c'est un traitement qui est hyper dur. Et ben voilà, on m'a dit oui, mais avec le sport ça va être compliqué. Ben non, ben moi j'ai pas envie d'entendre ça, quoi. Et là c'est vrai, attention, que quand on a la famille qui est derrière, c'est encore mieux.
Oui, et puis c'est bon, c'est une épreuve aussi qui nous permet encore d'apprendre, puisque tu es encore jeune, je crois, tu as une trentaine d'années.
J'ai 32 ans, ouais.
Voilà, donc c'est tout simplement encore une épreuve qui t'apprend quelque chose sur toi ou sur ton corps. Donc ça veut pas dire qu'il faut arrêter la natation, bien sûr.
Et non, et puis le oh, t'as 32 ans. Ah, pour de la natation, c'est un peu vieux. Ah bon, ok, encore une croyance.
Non. Voilà. Ouais, alors ça, dans le sport de haut niveau,
on l'entend beaucoup.
On a beaucoup ça. Hein. Mmh. Ouais. Federer, je crois qu'il a quel âge? Il a 30. Non, 37 ?
7, je sais plus. 37, je crois. Et en natation, on a Federica Pellegrini, qui est l'italienne, elle a 35 ans. Hein.
Oui,
elle
voilà.
Est au jeu de Tokyo. Hein. Donc, elle n'a peut-être pas fait une médaille, alors après, mais voilà. Elle était là, quoi.
Alors après, effectivement, quand on commence à avoir 50 ans, oui, ce sera plus du tout la même condition physique. Mais c'est toujours réussir à garder sa passion dans son monde à soi.
C'est ça.
Et alors... on va parler un peu de l'aviron. Comment c'est venu l'aviron à un moment dans ta vie, où ça t'a donné envie?
En fait, donc je connaissais l'entraîneur national de l'aviron. Il m'avait déjà proposé. Et puis c'est vrai qu'en 2018, j'avais un petit peu ce tout vu. J'étais dans l'eau, je tournais en rond, j'en avais un peu marre. Et puis c'était compliqué. Enfin, Et puis, il me manquait vraiment quelque chose dans ma vie de tous les jours. C'était, voilà, c'était d'avoir un enfant. Et le truc, c'est que l'aviron, bah, je me suis pris au jeu. Du coup, j'ai voulu commencer. Finalement, j'y suis allée. On a fait 3e championnat du monde. Je qualifie le bateau pour Tokyo. Et puis, en fait, après les championnats du monde, quand j'ai qualifié le bateau, je me rends compte qu'en fait, j'ai été à une période de ma vie où il fallait que je vois quelque chose de différent. J'avais besoin d'essayer ce sport collectif, d'essayer de voir autre chose, de faire un autre sport, de pouvoir pratiquer un autre sport pour pouvoir sentir des muscles différents, on va dire, parce que c'est hyper complémentaire l'aviron. Et c'est vrai que par contre, je me suis un peu perdue dans le truc parce que j'ai la mentalité en fait de l'aviron a fait que j'avais pas cette mentalité là et je me suis un petit peu perdue humainement parlant. Mais par contre, sportivement parlant, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté parce que je me voyais pas en fait, je me retrouvais pas. Je suis quand même assez, comment on dit, hargneuse. J'aime réussir, etc. Et c'est vrai que là, le fait que la réussite ou la défaite soit à plusieurs, j'avais un petit peu de mal. Donc je me suis un petit peu écartée de ça, mais j'étais très très contente parce que ça m'a beaucoup appris. On a fait 3e au championnat du monde, hein, on qualifie le bateau pour les Jeux, donc c'est formidable. Après, c'est vrai que je pense il y a le fait aussi que je voulais avoir un bébé et que en fait j'arrivais pas à stopper le sport et c'était hyper dur de faire cette part de choses et de me dire bon ok bon là t'es parti à l'aviron, t'es parti dans un autre truc, dans un autre trip. En plus il y a le Covid qui est arrivé derrière, tout ça c'est un peu compliqué, donc j'ai dit bon, on reprend à nager, on verra bien. Et puis finalement bon, il a fait qu'ils ont reporté un an Tokyo. J'ai dit non, bon, je c'est pas possible, je vais pas attendre encore 4 ans pour faire un enfant. C'est maintenant, c'est ce qui me manque, c'est ce qui me manque pour vibrer encore plus sur le plot. Et puis finalement, j'ai bien fait parce que voilà, tout s'est bien goupillé quoi. Et finalement, il n'y a pas de hasard dans la vie puisqu'elle est arrivée. Et puis et du oui. coup, j'ai pu reprendre et les Jeux sont dans 3 ans. Donc voilà, c'était une petite coupure, on va dire sympathique. Après, je m'y suis plus un petit moment, mais je ne serais pas restée. Voilà. C'est juste d'accord. que j'en avais besoin quoi.
D'accord. Et justement par rapport à ta fille, est-ce que tu as eu des croyances par rapport à ton handicap où tu t'es dit oula, ça va être compliqué d'avoir un enfant?
D'avoir un enfant, non, j'avais pas de peur particulière. Après j'avais la peur de est-ce que elle va pas avoir ce que j'ai eu, est-ce que parce que nous on sait pas réellement. En fait, on sait pas réellement d'où ça vient. On ne sait pas si c'est un vaccin une fois que je suis née ou est-ce que c'était dans le ventre de ma mère. C'est pour ça d'où ils disent maladie orpheline. Ils n'ont jamais cherché vraiment à savoir d'où ça venait. Donc, j'avais un peu cette peur. Après, non, ça s'est fait hyper naturellement. Et au contraire, je pense que toute personne en situation de handicap, s'il peut avoir un enfant, il faut surtout pas se limiter quoi, à ce qu'on peut entendre, c'est clair.
D'accord, super. Et alors, qu'est-ce que tu penses transmettre avec la natation à haut niveau?
Moi, j'espère que je l'ai déjà un peu transmis aux jeunes. C'est surtout faire qu'on aime, croire en soi, ne pas toujours écouter ce qui se passe autour de nous. Surtout qu'on voilà, on est dans une société où c'est compliqué, on entend beaucoup de choses. Je pense qu'il faut arriver à faire abstraction de tout ça. Et puis voilà, faire le sport qu'on a envie de faire, essayer, si ça marche ça marche, si ça marche pas on peut changer de sport. Moi j'ai toujours dit hein, si ma fille elle a envie de faire natation, ben elle essaiera. Si 2 jours après ça lui plaît plus, eh ben on essaiera autre chose. Et puis voilà, après c'est je pense que c'est il faut laisser libre choix en fait, et surtout la bonne conscience à l'enfant s'il a envie de faire même aux adultes, hein, s'ils ont envie de faire du sport de cette manière-là, s'ils ont envie de faire, s'ils sont plus dans le cinéma, s'ils ont plus, en fait, c'est faire ce qu'on a envie de faire, quoi, et arrêter de nous monter la tête sur des choses qui finalement n'ont pas de sens, quoi.
Et alors, quel est ton challenge actuel, Elodie, le risque que tu souhaiterais prendre aujourd'hui?
Voilà, bah là déjà le risque que je le prends, c'est de repartir dans les bassins pour Paris 2024. Après je pense que le plus gros challenge cette année, c'est de revenir là où on m'attend pas. Et ça va être le plus dur. En tout cas, je vis pour ça parce que je voilà, c'est quelque chose de passionnel. J'adore. C'est enfin, je pourrais pas dire qu'aujourd'hui je le fais pas par plaisir parce que c'est pas vrai. C'est vraiment me lancer pour les Jeux méditerranéens et championnats du monde qu'il y a cette année. Et c'est un gros challenge parce que les temps sont très durs et que bah il faut que je perde du
Oui.
poids et puis il faut que la machine se remette en route et ça c'est très 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 compliqué. Donc parce qu'il faut se laisser du temps hein, donc c'est vrai
Bien
que
sûr.
voilà, donc souvent on a beau me dire oui mais t'as le temps etc. Bien sûr j'ai le temps, mais si au passage j'arrive à grappiller ce qu'il y a à grappiller, je le fais quoi.
Oui, puis ça peut être juste un entraînement, justement.
Ouais, et puis de toute façon ça fait partie du chemin vers les Jeux de Paris, donc c'est vrai que c'est on va dire que c'est primordial, il faut le faire parce que c'est hyper important, mais après c'est vrai que si ça arrive plus tôt que prévu, bon bah je serais contente.
Et alors, question finale du podcast, penses-tu que nous sommes illimités?
Je pense que nous sommes illimités parce que sans ces croyances limitantes, je pense qu'on peut aller au-delà de ce qu'on vraiment de ce qu'on pense et ce qu'on peut réaliser quoi. Et moi je l'ai déjà prouvé, je me le suis déjà prouvé et je vais me le prouver encore aujourd'hui hein. C'est que on peut aller au-delà de tout ça quoi.
Génial pour le mot de la fin, Elodie. Elodie, merci. Merci
Merci,
beaucoup pour cette
merci.
interview qui était
Merci
vraiment
beaucoup.
inspirant et je pense qu'on peut en apprendre beaucoup hein, pour tous nos auditeurs et nos auditrices qui aimeraient se lancer dans le sport. Voilà, je pense qu'Elodie est une grande inspiration. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.